عشان ازيك يا كيلي؟ La parasha, elle est essentiellement consacrée à la construction effective du Mishkan. On a reçu les instructions sur la construction. On les avait reçues dans Parshat Truma et pour les Begadim, donc tu le savais. C'était les instructions. Et entre-temps, il y a eu la paracha qui contient la faute du veau d'or. Et dans Vayakhel Pkudé, c'est la construction effective du Mishkan selon les instructions qui ont été données auparavant. Alors le premier passouk dit Vayakhel Moshe et kol adat bnei Israël, Vayomer alehem, ele hadvarim, Asher tziva Hashem la'asot otav. Moshe a dit aux Bnei Israël, donc réunis, les a réunis, il leur a dit, voici les choses, les paroles, donc les choses qu'Hashem a ordonné de faire. Le Ramban explique, Vayakhel Moshe et kol adat Bnei Israël, Ramban dit, Itachen, il se peut, Shehayaseh beyom machorat rito. Il se peut que cette convocation, elle ait eu lieu le lendemain de la descente de Moshe Rabbeinu du Sinaï avec les nouvelles louchot. Ve'amar le kula minyana mishkan, asher nitztave bo betrila, Kodem, Shvur. Et à ce moment-là, Moshe dit au Bnei Israël ce qui lui a été dit déjà avant qu'il ne brise, à la suite du veau d'or, qu'il ne brise les premières louchot. Puisque Hashem, visiblement, il leur a pardonné, Notan Lahem, Aluchot Shniot, les deuxièmes tables, Le karat imo brit hadasha sheyelech Hashem bekirbam. Hashem a fait une nouvelle alliance avec les Bnei Israël, alliance selon laquelle Hashem va être parmi eux. Ineh chazru le kadmutam ou la'avat lulatam. Alors on peut dire que les Bnei Israël ont retrouvé la situation qui était la leur avant la faute. Et la relation d'amour avec Hachem. Ou biyadua, shetiye shchinato betocham, kinyan shetiveu, et donc, on sait que du coup, la présence divine parmi eux sera comme Hachem l'avait ordonné auparavant. Velachen, si ba otam Moshe ata, c'est pour ça que Moshe Rabbeinu leur a ordonné maintenant de faire tout ce que lui, Moshe, avait reçu comme instruction auparavant, c'est-à-dire avant la faute. Et Rashi avait dit plus haut, l'omar chez Aparchiot, hen, chez Lokisidran, vous vous souvenez? Cette machloket entre Rashi et le Ramban, Rashi disait que les parshiot, elles ne sont pas à lire dans l'ordre dans lequel elles se présentent dans le Sefer Torah. Rashi disait, Shema se'a egel aya kodem le tzivui melechet ha-mishkan. Que pour Rashi, les ordres qui sont donnés dans Parshat Tetzaveh, Teruma Tetzaveh, ont été donnés après la faute du veau d'or. Mais le Ramban, qu'on a cité maintenant au début, lui pense que la faute du veau d'or a eu lieu après que les instructions aient été données à Moshe Rabbeinu pour la construction du Mishkan. Et après la faute, vient cette parcha-là pour dire, pour redire que voilà, on a retrouvé la situation d'avant la faute. Ça, c'est donc un petit rappel de ce dont on a parlé en son temps, dans quand effectivement à son téléphone, quand effectivement Rashi avait dit que dans la Torah, il n'y a pas obligatoirement un ordre chronologique. Alors, voilà ce qui va se passer, ce qui se passe en fait. Immédiatement après qu'on nous dise que Moshe a convoqué tout le monde, et l'Advarim, Shir qu'est-ce que, par quoi commence a priori, qu'on attend ici, c'est qu'Hachem donne des instructions concernant la fabrication du Mishkan, mais on ne commence pas par la fabrication du Mishkan, on commence par des psukim qui rappellent le Shabbat. Bon, ça commence d'abord par Sheshet Yamim, Malacha, pendant 6 jours, il sera fait les Melachot, Voyom HaShvi'i, Kodesh, Shabbat Shabbaton Lachem, Kola Osebo Melacha, Yumat. Le 7e jour, c'est Kodesh, c'est Shabbat, Super Shabbat, pour Hachem, et tout celui qui fera une Melacha, ce jour-là, sera passible de mort. Et puis, il y a ici, Lo tevaharu esh bechol moshevotechem beyom haShabbat. Vous savez probablement que il y a 39 melachot. Shabbat, il y a un interdit qui porte sur 39 melachot. Et les melachot, ce nombre de 39, il est construit de façon assez acrobatique, si vous voulez, à partir du mot Elé, du premier pasouk, Elé Advarim, voici les paroles, et le mot Elé, à lui tout seul, il vaut 36, et comme il y a trois lettres, il y a plusieurs lectures ensuite, donc ça fait 39. Donc c'est de là qu'on sait qu'il y a 39 melachot. Alors, bien entendu, le mot Elé HaDvarim, normalement, il porte sur la construction du Mishkan. C'est des paroles, des choses qui ont été dites concernant la construction du Mishkan. Et donc, il y a un lien entre Shabbat et le Mishkan. Les melachot qui sont interdites le Shabbat, ce sont les melachot qui ont servi à construire le Mishkan, pas dans le fonctionnement, dans la construction du Mishkan. Donc, les melachot qu'il fallait utiliser pour construire le Mishkan étaient donc positives, si on peut parler comme ça. Shabbat, elles sont interdites. C'est même la route. Rashi sur le passouk de Shabbat, sur le deuxième passouk, ici, il dit, sur Sheshet Yamim, Igdim lahem azarat Shabbat et tzivuim lechet haMishkan. Dans notre paracha, le texte parle d'abord du Shabbat et après de la construction du Mishkan. De là, on déduit que le Shabbat est plus important que la construction du Mishkan et que la construction du Mishkan ne peut pas se faire le Shabbat. Alors, tout le monde fait remarquer que Dans Parshat Ki Tissa, on a aussi le double sujet Mishkan et Shabbat qui est précisé, mais là-bas, il est dans l'autre ordre. Dans l'ordre de d'abord le Mishkan et après Shabbat. Et si on appliquait la règle que Rashi a énoncée ici, alors on aurait dans la parashat Ki Tissa un passouk qui nous dit, enfin une halakha qui nous dirait que la construction du Mishkan, elle repousse le Shabbat. Puisque si tu dis que c'est, ça dépend de l'ordre dans lequel les choses sont dites, en fait, si vous voulez, on a une espèce de chiasme si, dans la construction. C'est dans Ki Tissa, c'est Mishkan, Shabbat, ensuite le veau d'or, et puis ensuite, à l'inverse, Shabbat, Mishkan. Donc, entre avant et après le Mishkan, il y a inversion de l'ordre dans lequel Shabbat et Mishkan sont dits. Et si on suit Rashi, alors on a une ambiguïté. On a, d'un côté, on nous dit que le Shabbat, n'a pas le droit de construire le Mishkan. Et d'un autre côté, on nous dit que le contraire, que le Shabbat est repoussé, est mis en parenthèse lors de la construction du Mishkan. Mais ce que Rashi dit ici, il ne dit pas du tout la même chose dans Ki Tissa. Il ne dit pas du tout, puisque le Mishkan est cité avant le Shabbat, alors ça veut dire que le Mishkan a priorité sur le Shabbat. Là-bas, Rashi, sur le passouk qui est Et Shabtotai Tishmoru, il dit Afalpi Shetiyu, Rdufim, Zrizim, Bezrizut Amlacha, Shabbat, Al Titre Mipanea. C'est-à-dire, le Shabbat ne va pas être repoussé. Et il explique que c'est un problème d'utilisation du mot ach. Marqué ach et shabtotai. Le mot ach, c'est en général un miout. Ça vient dire que on vient exclure quelque chose. Alors là, le Ramban, qui évidemment là-bas critique Rashi, parce que il dit, ben, avec ton principe, hein, on a des contradictions. Et il lui dit, ça marche pas ce que tu dis, parce que le miout, quand il utilise un terme, un problème technique, quand il y a un miout, c'est-à-dire quand on va exclure quelque chose, ce qu'on exclut, c'est toujours ce dont parle la mitzvah. Et si tu vas dire que le miout, le ach, il parle des travaux du Mishkan, alors on pourrait faire ces travaux au Shabbat. Et c'est la raison pour laquelle les Chachamim, eux, ils disent de ce Shabbat-là que effectivement le Shabbat est repoussé, mais pas par la construction du Mishkan, mais pour, par exemple, la mitzvah de Mila. Quand la Mila se fait le 8e jour, on la fait même si c'est Shabbat. Et aussi que dans les cas de Pikuach Nefesh, quand la vie est en jeu, on repousse le Shabbat. Alors, il y a un Meshech Chochma dans Vayekel, donc dans notre paracha, qui dit la chose suivante. Il dit, d'après le Pshat, si on s'en tient au Pshat, alors dans Parashat Ki Tissa, la paracha de Ki Tissa, elle a été dite, enfin, ce qui a été dit dans Ki Tissa est dit avant la faute du veau d'or. Alors, dit le Meshech Chochma, avant la faute du veau d'or, La construction du Mishkan repousse Shabbat. Et effectivement, le mot ach, il porte effectivement sur le Shabbat. C'est pour ça qu'on a cité d'abord le Mishkan et après le Shabbat. Alors que dans Vayakhel, qui est une paracha qui a été dite après la faute du veau d'or, c'est le Shabbat qui repousse la construction du Mishkan. C'est pour ça que ici, dans notre paracha, on cite d'abord Shabbat et après seulement le Mishkan. Et alors, il faut expliquer ça. Et le Meshech Chochma l'explique comme ça. Il dit, alors, pour rappeler juste les choses, ce qui est interdit, Shabbat, c'est la construction du Mishkan. Mais vous savez bien que quand on avait le Mishkan ou le Beth Amikdash, il y avait dans le fonctionnement du Mishkan ou du Mikdash, il y avait des choses qui étaient impératives, qu'on devait faire tous les jours, y compris Shabbat. Par exemple, le Korban Tamid, le Korban qu'on amenait deux fois par jour, tous les jours, y compris Shabbat. Donc on faisait ce Korban Tamid. Dans le Korban Tamid, une des parties du Korban Tamid, c'est une des choses, c'est qu'il est, c'est un holocauste, il est entièrement consumé. Donc on est Mechalel Shabbat. L'Hadlakat HaNerot, le vendredi soir, des Nerot de la Menorah, ça a lieu Shabbat. Et on est, c'est Dochei Shabbat. On fait ça Shabbat. Dans le Beth Amikdash, dans le Mishkan, puis dans le Beth Amikdash. Non, pas les Nérodes de Shabbat. Les Nérodes de la Menorah qu'on allumait le soir. Et le... Pardon? Non, il allumait. Ah, ça change rien, Shabbat, c'est même à partir d'une flamme déjà existante. C'est aussi assourd, même s'il a pris le feu du Mizbéach, où il y avait du feu qui brûlait en permanence, ça ne changeait rien. Et puis le Ktoret aussi, on le brûle, Shabbat. Il y a un Korban Ktoret. Et pourquoi est-ce que c'est permis? Parce que quand il y a le Mishkan déjà, dans l'enceinte du Mishkan, il y a la présence divine. Donc on est dans un endroit où il y a présence divine. Le Shabbat, c'est autre, c'est un témoignage fait pour le monde, que Hachem a créé le monde. Et un témoignage que Hachem a créé le monde à partir de rien, à partir du néant. Or, le travail, la avoda qui est faite dans le Mishkan, il montre la Hashgacha, le souci permanent d'Hachem dans le détail et le fait que il s'occupe du monde à chaque instant et que, comme on dit, grâce à la Avoda, Hachem et Mechadesh, il renouvelle à chaque instant et il fait durer le monde. Parce que la avoda, c'est un des piliers qui font tenir le monde. Et donc, on voit très bien que c'est plus important, cette avoda, que le Shabbat. Ben, ça vient seulement dire qu'Akadosh Baroukh Hou a créé le monde en 6 jours à partir de rien du tout. Que? Dans le quoi? Dans Mishkan, dans le Métamigdash? Bon, c'est bien comme ça, t'es pas venu pour rien. Pardon?
Parce que je découvre aussi comme Rachel, mais qui est la présence divine,
S'il y a
d'accord?
présence divine, ça veut dire que ce qu'on fait au Mishkan, c'est plus important pour le. Si vous voulez, ça veut dire ça maintient le monde à chaque instant. Alors que le Shabbat, il témoigne qu'un jour, Akadosh Baruch Hu, enfin un jour, Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Bon, mais qu'est-ce qui est important? Qu'il ait créé le monde ou bien qu'il le maintienne à chaque jour? Il le recrée chaque instant, chaque jour. Il le recrée, il le fait tenir chaque jour. Pardon? C'est pour ça que l'interdit, il est seulement sur la construction, il n'est pas sur le fonctionnement. Et donc, la Avoda, elle repousse le Shabbat. La Avoda dans le Betamigdash repousse le Shabbat. Mais la construction du Mishkan, tant que le Mishkan n'est pas construit, il n'y a pas de présence divine là-bas. Et donc, la construction, elle ne peut pas repousser le Shabbat. Mais avant d'avoir fait le Hegel, avant qu'ils aient fait le veau d'or, déjà avant même la construction du Mishkan, il y avait une situation qui est décrite par Bchol makom asher azkir et shemi, avo elecha uverarticha. Avant le Mishkan, on pouvait servir Hachem n'importe où. Les avot, là où ils arrivaient, ils construisaient un autel et ils servaient Hachem. Il y avait la Avoda. La Avoda, elle n'avait pas besoin du Mishkan. On pouvait la faire partout. La Shrina, elle existait dans le Klal Israël, chez Avraham, Yitzhak, Yaakov, etc., avant la construction du Mishkan. Donc à ce moment-là, la construction du Mishkan était comme un élément de la Avoda. Et donc, du coup, même la construction du Mishkan, elle repoussait le Shabbat. C'est ce que dit le Meshech Chokhma. Ravolvé là-dessus, il dit, je comprends pas vraiment pourquoi on a besoin de nous dire que le Shabbat, on n'a pas le droit de construire le Mishkan. Comment on pourrait imaginer que la construction du Mishkan repousse le Shabbat? Est-ce que quelqu'un pense que écrire un Sefer Torah, ça repousse Shabbat? Certainement pas. Au contraire. C'est pour repousser le Shabbat qu'on a besoin d'un verset. Besoin d'un verset pour ça. Comme pour les korbanot, korbanot de tzibour, on a un passouk qui nous dit. Alors il dit comme ça, il dit, Ravolvé dit, Eneni yodea et apshatkan. Je ne sais pas comment il faut entendre le verset ici. Mais je veux dire quelque chose. toute la faute du veau d'or, d'après Ramban. C'est un peu comme une mitzvah à Baba Avera. Parce qu'il voulait trouver un remplaçant de Moshe. Pour les guider mieux, quoi. Et c'est dans cette démarche-là que ça n'a pas marché, quoi. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, maintenant, il vient leur dire, ne refaites pas la faute. Ce n'est pas une faute pour faire une mitzvah. Est-ce qu'on aurait peut-être pu penser qu'on veut prendre le Shabbat un peu à la légère? On est en train de construire la résidence pour Hachem, on peut mettre le Shabbat entre parenthèses. Mitzvah haba ba'avera, c'est un grand sujet. C'est, on fait une mitzvah, mais dans l'accomplissement de la mitzvah, on a fait une avéra. Par exemple, ici, on fait la mitzvah de construire la résidence d'Hachem, et dans ce processus de construction, on transgresse Shabbat. C'est mitzvah qui vient, alors que dans le processus d'accomplissement de la mitzvah, on transgresse quelque chose. Ou bien, le cas standard, c'est la mitzvah de Loulav. Si quelqu'un a volé un loulav, il vole un loulav et il fait la mitzvah de loulav. Il a volé le loulav de quelqu'un d'autre. Ben il dit, mais j'ai volé pour pouvoir faire la mitzvah. Une mitzvah comme ça vaut rien. Mais on pourrait dire que finalement, si la mitzvah nous apparaît comme plus grande que la faute qu'on fait, on pourrait se trouver justifié de transgresser quelque chose pour faire quelque chose de plus grand pour Hachem. Si on pense que construire la résidence d'Hachem, c'est énorme, alors ok, on va être Mechalel le Shabbat. Le Shabbat, on fera la semaine prochaine. Sa mitzvah Abba Avera. Pardon? Une mitzvah qui repousse une autre. Non, il y a des mitzvot, on dit mitzvah tassé qui repousse un lota assez. Ça, c'est aussi sous certaines conditions. Et c'est ça, on aurait pu penser que le assez de Binyan à Mishkan repousse le lota assez de Shabbat. Là, c'est Mitzvah Abba Avera. Mais il ne dit pas que c'est ça le pshat. Il dit que ça touche ce sujet-là. Alors il disait que ça, c'était un des grands principes de Rabbi Israël Salanter, fondateur du mouvement Moussar, qui est que l'homme, dans son service d'Hachem, il doit faire très attention à ce problème de mitzvah Abba Avera. Lui, il appelait ça, en yiddish, il appelait ça Afrumenegia. c'est-à-dire par piété, on transgresse quelque chose. On raconte une histoire. C'est quelque chose qui arrive. Vous savez, quand on fait la bracha sur le talit, on s'enveloppe dans son talit, on rassemble les quatre côtés, on les jette sur une épaule et après éventuellement sur l'autre. Il y a quelqu'un qui a fait ça, mais les tzitzit, il les a envoyés dans la figure de Rabbi Israël qui était derrière. Ça arrive. Ça m'est arrivé plusieurs fois que quelqu'un devant moi, il met son talit et puis, hop, il balance ses tzitzit. Et vous êtes derrière. Alors, en général, les rangs sont assez serrés et vous prenez les tzitzit dans la figure. Bon, personne n'est jamais mort de ça. Mais bon, c'est un peu désagréable. Alors, il s'est arrivé à Rabbi Israël Salanter. Quelqu'un lui a fait ça. Alors, Rabbi Israël lui a dit: pourquoi est-ce que moi, je suis fautif de ce que toi, t'es pieux? Ta piété, elle est sur mon compte. Par ta piété, là, tu me frappes. Alors, tout ce qu'on raconte sur Rabbi Israël Salanter, c'est toujours ce qu'on appelle Maaserav, c'est-à-dire si on le raconte, s'il a permis qu'on le raconte, c'est qu'il y a un enseignement. C'est pas les curiosités des événements de la vie de Rabbi Israël. Rabbi Israël voulait montrer à ce bonhomme qui lui a fait ça comment on peut perdre une mitzvah parce qu'on ne fait pas attention que durant la mitzvah, on fait une avéra. Rabbi Israël donnait toujours le machal, toujours l'exemple. Il y avait souvent qu'on appelait un magide, c'est-à-dire quelqu'un qui venait, souvent c'est des personnages itinérants qui allaient de ville en ville et qui donnaient une dracha. Dans la dracha, il faisait du moussard en général, il était renseigné quel est le problème dans la ville, etc. Et il allait parler de ça et inciter les gens à faire plus attention. Alors il donnait toujours cet exemple que quand vient le magide en question, tout le monde se précipite pour être au premier rang, quoi, quasiment, pour mieux entendre. Mais bien sûr que quand les gens s'approchent, eh bien, on peut très bien marcher sur les pieds des autres, quoi. On peut faire des avérotes pour se pousser. On peut se mettre en colère, on peut mettre l'autre en colère. Et tout ça, c'est pour entendre une dracha sur le fait qu'il ne faut pas se mettre en colère, etc. Donc ça, c'est un des enseignements principaux du Moussard, de faire attention cette idée de mitzvah baba vera, qui c'est une mitzvah qui vaut rien du tout, n'est-ce pas? Tu fais une mitzvah, tu t'imagines que tu as fait ta mitzvah, tu n'as pas fait la mitzvah. Une mitzvah qui est faite à ce prix-là, elle vaut rien. Donc, il s'agit toujours de faire attention quand on fait une mitzvah, de ne pas la faire sur le compte de quelqu'un, c'est-à-dire au sens où tu vas faire mal à l'autre. C'est mitzvah. Ça vaut rien parce que tu fais une avéra. Bon, mais ça, on ne parle pas des gens qui commencent. parle des gens qui
Okay.
continuent. Donc c'est quelqu'un qui n'y connaît rien du tout. Alors bon, il a voulu faire, c'est Hachem qui juge. Mais nous, quand on juge quelqu'un qui fait une mitzvah sans tenir compte de ce qui se passe pour les autres, c'est pas. Vous avez quelqu'un qui. Vous avez une assemblée et tout le monde a mangé. Et un qui fait le Birkat Amazon à sa vitesse et il assomme tout le monde avec son Birkat Amazon à très haute voix. Et il va à sa vitesse et donc ça perturbe les gens qui n'ont pas l'habitude de. Les gens qui, par exemple, disons que les gens sont en train, ils savent par cœur le Birkat Amazon. Mais si tu as quelqu'un qui crie très fort son Birkat Amazon à côté de toi et c'est pas ton rythme, c'est dérangeant. Pourquoi l'effet collatéral en question, il a rien de positif? Le collatéral, il est complètement négatif. Quoi, marcher sur les pieds des gens, je vois pas, à part si ça le soulage parce qu'il avait juste un corps au pied à cet endroit-là, d'accord, mais autrement, non, il n'y a pas. Marcher sur les pieds des gens, ça, je crois pas que c'est un effet positif. Non, elle n'est justement pas pour elle-même. L'idée, c'est que c'est justement pas, c'est pas ça une mitzvah, c'est pas. Une mitzvah, quel qu'en soit le coût pour les autres.
Lui-même, quoi.
Pardon?
C'est un acte isolé que pour lui-même. C'est pas une démonstration, c'est une mitzvah. C'est un avant, après, le retour. C'est dans un ensemble une mitzvah.
Oui, enfin, il se trouve qu'on est des. Si vous êtes chez vous, vous pouvez balancer aussi fort que vous voulez.
Puisque chez moi, par exemple, je fais attention, il a encore un peu plus.
S'il n'y a personne, si vous êtes seul chez vous, ben, il n'y a pas ce problème, se pose pas.
Il y a un autre. C'est parce qu'il y
Qui?
a un ensemble.
S'il y a quelqu'un d'autre, oui, il y a un problème.
Personne, mais donner
Donc,
un
mais les
peu.
fantômes, ça ne fait rien, on n'est pas obligé de tenir compte.
C'est que ça vous a dit qu'on a une hiérarchie dans une zone. Vous nous avez toujours dit qu'il n'y a pas de petite et de grande zone. Il y a un commandement.
D'abord, c'est vrai qu'il n'y a pas des petites et des grandes mitzvot, mais il y en a au moins une certaine hiérarchie, parce qu'une mitzvah sur laquelle on est chayav karet, c'est plus grave qu'une mitzvah sur laquelle on reçoit des makot.
M'exaspère beaucoup et je dis quand on bouge dans le terme, ça m'exaspère beaucoup. C'est quand on me répond, il prend la voiture pour venir à la synagogue, sinon il n'irait pas à la synagogue. Ben,
Non, mais ça, c'est son problème à lui.
c'est.
Mitzvah, c'est vrai que c'est pas bien. C'est vrai que c'est pas bien. Maintenant, voilà, il faut regarder. Et il se trouve qu'il n'y a pas d'obligation d'aller à la synagogue.
Oui, mais
S'il y avait une obligation d'aller à la synagogue, on pourrait se demander qu'est-ce qu'il en est. Parce que au moment où il fait la, où il prend sa voiture, où il fait la faute, il n'est pas à la synagogue. Il est en chemin.
c'est dans
La loi qui dit que une mitzvah positive, éventuellement, dans certains cas, elle repousse une mitzvah négative, c'est seulement si, au moment où tu fais l'un, tu fais l'autre.
il y avait donc que vous dites de penser à l'autre. Vous avez raconté une fois qu'un rabbin était là, il allait à la prière, il entend un bébé pleurer, il ne peut pas.
Ça c'est lui, ça c'est Rabbi Israël Salanter. Il n'est pas allé à Kol Nidre. Bon, ça c'est autre chose, c'est sa sensibilité. Lui, il voulait donner probablement une leçon aussi à la mère de famille, là, qui a laissé son enfant pleurer, et pour aller à la synagogue, peut-être.
Il a été sensibilisé aux pleurs du bébé parce
Oui, mais je ne sais pas si c'est seulement une sensibilisation. C'est lui. Ce qu'on raconte, c'est ce que je vous ai dit avant. Ce qu'on raconte sur Abi Israël, c'est une leçon. On n'est pas en train de raconter la sensibilité personnelle de Rabbi Israël, ça ne nous intéresse pas. Alors ensuite, dans la suite, on a dit, il y a 39 melachot. Dans la Torah, la seule melacha dont on parle, c'est celle-là. C'est-à-dire, lo tevaharu esh bechol moshpatechem. Vous n'allumerez pas de feu dans vos maisons. Ce verset-là, il est très très important. Il fait l'objet d'une machloket. Machloket très importante. Le problème, c'est le suivant. Quand on parle de Shabbat, on dit toujours Lo ta'aseh kol melacha. Tu ne feras pas kol melacha. Et on peut lire, on pourrait entendre dans Lo ta'aseh kol melacha que la transgression du Shabbat, elle n'a lieu que si on fait toutes les melachot interdites. Et tant que tu n'as pas fait les 39 melachot de Shabbat, on pourrait penser que je n'ai pas encore vraiment transgressé le Shabbat. Alors, le fait qu'il y ait un échantillon des 39 melachot, une des 39 melachot. De ce point de vue-là, ça aurait pu être n'importe laquelle. On verra après pourquoi c'est celle du feu qui est mentionnée, mais de ce point de vue-là, ça pourrait être n'importe laquelle. Alors, il y a une discussion pour savoir, est-ce qu'on vient nous dire ici que sur cette melacha-là, c'est un av melacha, c'est une des 39 melachot. Et ça vient nous dire que sur cette melacha, éventuellement, on pourrait dire, là-dessus, il y a un interdit, un lav, c'est lotevaru, lo. Ne faites pas de feu. Ouais. Donc, si dans la Torah, chaque fois que la Torah dit sur quelque chose, ne fais pas, alors a priori, ça veut dire qu'on a transgressé un interdit, et éventuellement, sauf cas particulier, la sanction, c'est, si on a été averti, etc., c'est 39 coups de bâton, enfin de fouet. Mais dans la Torah, quand on parle des mlachot de Shabbat, c'est marqué que celui qui va transgresser le Shabbat, il va être retranché. Il a une peine de karet. C'est une peine de mort qui n'est pas donnée par le tribunal, mais qui est donnée par le ciel. Donc c'est une peine beaucoup plus grave que la peine qui consiste à lui donner une bastonnade. Donc ça viendrait dire ici que cette melacha en particulier, c'est un av, mais sur lequel éventuellement on ne transgresse que quelque chose qui est sanctionné par des coups et pas par la peine de karet, pas par la peine de retranchement. Ou bien on vient dire que d'avoir singularisé une melacha, ça vient nous dire justement qu'on transgresse déjà le Shabbat. En ne faisant qu'une seule des 39 melachot, on n'a pas besoin de les transgresser, de faire les 39 melachot pour transgresser le Shabbat. Donc ce verset-là, il est susceptible de deux lectures. Une lecture qui ne le concerne que lui, ce verset. On dit quelque chose sur ce verset. Ou bien une lecture qui dit que ce verset-là il vient nous dire quelque chose sur l'ensemble des melachot de Shabbat. Ce n'est que celui-là, il aurait un statut à part. Celui-là, il ne serait pas sanctionné par une grande sanction, mais par une plus petite sanction. Donc ça le concerne, lui. Ou bien non, il est révélateur du statut de chacune des 39 melachot, sur chacune des 39 melachot qui est, si elle est faite, et avec avertissement, etc., on est passible de karet. On n'a pas, il n'y a pas karet seulement si on les a toutes faites. Donc c'est tout à fait particulier. Alors maintenant, pourquoi est-ce que c'est justement l'histoire du feu? Pardon? Oui, alors, du Mokoshech-Etsim, on voit, mais peut-être que c'est un peu spécial, le Mokoshech-Etsim. De toute manière, on ne comprend pas grand-chose parce que, en vérité, on n'a pas pu l'avertir. Donc, c'est une aura, ce qu'on appelle le Ratchal. Il a été traité spécialement, ce Mokoshech-Etsim. C'est pas. Alors, et il faut savoir la chose suivante. Shabbat, les melachot qui sont interdits de Shabbat, je vous ai dit, on les apprend de la liste des melachot nécessaires pour la fabrication du Mishkan. Mais vous avez probablement remarqué que quand la Torah elle nous parle du travail qui est fait pour la fabrication dans le Mishkan, elle parle toujours de Melechet Marchevet. C'est-à-dire, c'est un travail pensé, un travail d'artisan. Un artisan, c'est quelqu'un qui a pensé dans son travail. C'est pas simplement, il plante un clou, il prend un marteau, il plante le clou. Il sait exactement comment il faut tenir le clou, comment il faut tenir le marteau, etc. C'est ça un travail d'artisan. Donc, c'est pensé. Et donc, Shabbat, si la mlacha qui est faite, si le travail qui est fait n'est pas un travail pensé, alors on n'a pas vraiment transgressé Minatora. C'est interdit Midérabanan en général, mais on n'a pas transgressé Minatora. C'est pas de cette transgression-là que parle la Torah. Et si le travail doit être un travail pensé, c'est aussi un travail constructif. Par conséquent, quand le travail est un travail destructeur, on ne transgresse pas le Shabbat avec ça. Par exemple, on n'a pas le droit d'écrire deux lettres Shabbat. De A, E, enfin, disons, Aleph, Bet, on ne peut pas écrire. Si on a écrit deux lettres, on a transgressé Shabbat. De la même manière qu'on ne peut pas écrire, on ne peut pas non plus effacer. Mais quand on efface, on abîme. On a détruit l'écriture. Donc si on efface simplement, on n'a pas transgressé le Shabbat, Minatora. C'est toujours interdit Minrabanan, mais on n'a pas transgressé le Shabbat. Quand est-ce que effacer, c'est transgresser le Shabbat? C'est quand on efface pour pouvoir écrire à la place de ce qu'on a effacé. C'est-à-dire, je détruis ce qui était là, mais pour pouvoir réécrire au même endroit. Or, la caractéristique du feu, c'est que quand ça brûle, ça détruit. Donc, quand je brûle quelque chose, je détruis. Donc normalement, je ne devrais pas transgresser Shabbat. Pourquoi est-ce qu'on nous dit que on n'a pas le droit d'allumer? Quand j'allume un feu, je détruis le combustible. Donc je devrais être pas tout. Ne devrais pas avoir de conséquences négatives. Mais d'un autre côté, il y a plein de melachot qui utilisent le feu de façon décisive. Quand vous voulez cuire quelque chose, vous utilisez le feu de façon positive. C'est-à-dire, vous brûlez du combustible, mais c'est positif, parce que ça vous permet de cuire. Et donc, justement, on a une ambiguïté dans le feu. Le feu est à la fois destructeur et aussi constructeur. Et c'est peut-être pour ça que quelqu'un peut penser que sur le feu, on transgresse, mais on transgresse pas exactement de la même manière qu'une autre melacha, où effectivement, pour la transgresser, pour vraiment faire la melacha de façon absolument claire. Ici, quand tu allumes du feu, y compris par exemple quand j'allume du feu pour me chauffer, je chauffe l'air. Bon ben, c'est aussi positif. Qu'est-ce qu'on fait quand on a froid? On allume le feu. Donc, je détruis le combustible. Donc, je détruis, c'est un feu destructeur, mais c'est aussi un feu constructeur. Il construit l'ambiance de la maison, il construit la cuisson, etc. Et donc, c'est peut-être pour ça qu'on a mis cette mlacha-là, elle a cette caractéristique d'être à la fois destructeur et constructeur. Et c'est pour ça que la Torah, si on ne nous avait rien dit, de nous-mêmes, on n'aurait pas su exactement est-ce qu'il faut considérer le feu comme destructeur, et c'est-à-dire il n'y a pas d'interdit, Minatora, d'allumer un feu, ou est-ce qu'il faut le considérer comme constructeur, et du coup il y a un interdit. Alors par exemple, il y a un exemple très célèbre, quand quelqu'un est en colère et il casse la vaisselle Shabbat, il détruit. Donc, casser la vaisselle Shabbat, ça ne transgresse pas le Shabbat, ni la Torah. Sauf si ça calme la personne. Si ça le calme d'avoir détruit la vaisselle, alors la brisure de la vaisselle, c'est constructeur. Ça le calme. Alors, s'il s'est calmé avec ça, alors il a transgressé Shabbat. Ou elle a transgressé Shabbat. C'est très important de savoir exactement quelle est la loi de la vaisselle brisée le Shabbat, n'est-ce pas? C'est fondamental. On ne peut pas entrer dans le Shabbat sans savoir exactement ce qu'il en est. Alors, dans cette paracha, on retrouve Betsalel et son collègue Oliav. Dans le passouk, c'est marqué Vayomer Moshe el Bnei Israël. Moshe a dit au Bnei Israël, Reu, voyez, קרא השם בשם בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה, השם האפלה בצלאל, לטריבו יהודה, le mot re'ou, il est un peu spécial ici. Voyez, qu'est-ce qu'il y a à voir? Ici, Ravolbe, il disait que on entend dans ce verset qu'on voyait sur le visage de Betsalel qu'Hachem l'avait appelé pour cela. On voyait qu'il était chargé de cette mission-là. Ça se voyait sur lui. Ils ont été choisis de l'archov marchavot, littéralement de penser des pensées, la sotte pour faire, pour agir, ben zahav, ben kesef, ben rochette, faire avec de l'or, de l'argent, du cuivre, ou le horot natan belibo, et Hachem l'a inspiré pour qu'il puisse diriger, lui et Oliav ben Achisamach, son collègue Oliav de la tribu de Dan. C'est intéressant parce qu'il y a un Targum, Onkel s'y traduit ici. C'est marqué dans le pasuk, Lachashov Vachashavot. Littéralement, ça veut dire penser des pensées. Et le Targum d'Onkel s'y traduit, ou les alpha, van. C'est-à-dire, hein? Oui? Umnevan. D'après le Targum, il a traduit donc l'arachov, qui veut dire penser, normalement. Il veut dire enseigner aux autres. L'archov, c'est enseigner. Intéressant. Mais pourquoi est-ce qu'on nous dit, bon, c'est important, mais c'est répété ici. On nous répète ici que Betsalel et de la tribu de Yehuda, et Oliav de celle de Dan. Rachid dit, Oliav qu'il était Meshevet Dan. Et Rachid explique, qu'est-ce que ça veut dire qu'il était de la tribu de Dan? Mina Yerudim Sheba Shvatim, Ibn Ashpachot. La tribu de Dan, Dan c'est un fils des servantes, c'est un enfant d'une des servantes. Ils étaient là, quand on marchait, c'était la dernière tribu. Donc la tribu de Dan, c'est si vous voulez, dans la hiérarchie des tribus, si on peut parler comme ça, Yehuda c'est la première et Dan la dernière. Donc c'est intéressant qu'on ait pris des représentants de la première et de la dernière tribu pour diriger les travaux de construction du Mishkan. Alors Rashi dit, Ishvou Amakom le Betzalel. La Torah, elle a mis Oliav à la même hauteur que Betzalel en ce qui concerne la construction du Mishkan. Alors que Betzalel, il fait partie des plus grandes tribus. Pour bien montrer que Akadosh Baruch Hu, il ne tient pas compte du tout du Yichus. On ne regarde pas du tout de quelle tribu il est. On regarde seulement est-ce qu'il est à sa place? Est-ce qu'il est adéquat pour ce travail? Oh. Pardon? L'archov, ça veut dire le lamed l'acherim. Enseigner à d'autres. Pardon? la traduction de l'archov. Ici, dans ce cadre-là, on connaît s'il a traduit l'archov marchavot, ça veut dire enseigner aux autres. Alors que nous, on aurait traduit pour penser, pour faire un travail, penser, etc. Non, il s'agit d'enseigner aux autres. Exactement comme dans la suite, parce que la suite, c'est le horot. C'est aussi d'enseigner. Alors, cette histoire qu'on ne tient pas compte de fils de qui tu es, etc., on raconte que il y avait un énorme Talmid Chacham à Minsk. On appelait le Minsk Gadol, ça veut dire le grand de Minsk. Minsk, c'est la Biélorussie, oui. C'est une grande ville juive en son temps. Lui, son père, il était ailleurs. Et un jour, il y avait une assemblée de grands rabbinim, et chacun a dit des paroles de Torah au nom de son père. Chacun au nom de son propre père. Et quand c'était à lui à parler, il a dit au nom de son père, Shelo kedai letaken beged yashan lahafoch et hatzad ha-pnimi lachutz kenahoug. Il a dit au nom de son père que ça ne vaut pas la peine pour arranger un vêtement de le prendre à l'envers, c'est-à-dire l'intérieur vers l'extérieur. Il vaut mieux fabriquer un vêtement nouveau. Et il a ajouté, moi non plus, je ne veux pas dire des choses anciennes. Je vais vous dire quelque chose de neuf. Et il a dit une nouvelle chose qu'il venait de dire. Donc, bon, c'est pas, il était capable de trouver de quoi dire. Ça veut dire qu'eux, ils ont dit que des choses anciennes, ils ont dit des choses de leur père. Bon, il a dit en nom de son père que ça vaut pas la peine de dire des choses anciennes, les présenter comme si elles étaient neuves. Il vaut mieux faire quelque chose de neuf. Et lui, il a fait la même chose. Je vais vous enseigner quelque chose que je viens d'inventer ou de fabriquer maintenant. Bon, Rachel n'est pas d'accord avec le père de Minsker. Non, mais le problème, c'est que la vérité, c'est que la plupart des livres qui ont été écrits avant sont écrits en écriture de Rashi. Et les nouvelles éditions, c'est toujours en écriture carrée, c'est-à-dire d'imprimerie. C'est beaucoup plus facile à lire. Et il y a plein de gens qui ont beaucoup de mal à lire l'écriture de Rashi. Surtout que ce n'était pas toujours imprimé dans les meilleures conditions, pas toujours sur un super papier, etc. Donc, j'en ai aussi la moitié des livres ici, ou les trois quarts des livres, sont écrits dans la chambre de Rashi. Mais au fur et à mesure qu'on réédite les anciens, plus personne ne veut. Vous ne pouvez plus enseigner à des enfants aujourd'hui. Ils ne vont pas. Ça peut-être même pas obligatoirement tous. Enfin, ils savent lire Rashi parce qu'ils ont appris Rashi, mais sauf dans Rashi, ils n'ont pas envie que dans l'habitude de l'imprimerie moderne. Ça ne veut pas dire que les livres sont pas bons, ils sont toujours aussi bons. Mais bon, on présente les choses de façon plus claire, souvent sur un meilleur papier, etc. Bon, et ce n'est pas toujours vrai d'ailleurs. Ça se présente souvent. Il y a certains sidourim, on voit très bien, qui ont été imprimés à l'ancienne méthode, ils sont encore tout bons. Et ceux qui ont été écrits, imprimés il y a 10 ans, ils sont illisibles. Papiers sont déchirés alors que le papier était beaucoup plus résistant, etc.
Plus le saut. On fait plus partie du groupe. Je sais pas,
Le
vous m'entendez?
Sinaï,
Ah,
qu'est-ce qui se
ça y est.
passe?
Bon, il n'y avait pas
Si,
de
bon,
son.
on n'entendait plus rien. C'est bon, merci, Mérav. Pardon?
On n'entendait plus rien.
Maintenant, on
On entendait.
entend? Vous entendez maintenant?
Oui, on entend bien maintenant. Tout va bien. Merci beaucoup. Merci.
D'accord. Donc, le Sinaï, c'est quelque chose, c'est cette présence divine, cette révélation. Et la révélation, elle a lieu dans le Mishkan. Le Mishkan, c'est le lieu de la révélation où Hachem va parler avec Moshe comme il a parlé au Sinaï avec Moshe. Et il parle régulièrement, en fait, avec Moshe. Parler avec Moshe, c'est parler avec les Bnei Israël. Enfin, Moshe Rabbeinu, il a une prophétie, mais sa prophétie, il ne l'a que quand les Bnei Israël le méritent. Pendant les 38 ans de promenade dans le désert, Moshe n'a pas eu de révélation pendant tout ce temps-là. Parce que les Bnei Israël ne le méritaient pas. Alors, du coup, Hachem ne lui a pas parlé. Voilà, on va s'arrêter là.
On a perdu un bout.
Alors justement, entre quoi? Entre le Sinaï, tu veux dire? Oui. Justement, alors visiblement, peut-être que si on considère le Sinaï comme le moment où on nous a donné les mitzvot, alors les mitzvot, on les a. Donc, on n'a pas mis l'accent sur la révélation en tant que telle. La révélation, elle a eu lieu, et ça, c'est Hachem s'est montré. Bon, c'est tout. Ça, on ne va pas commémorer ça, si on veut, parce qu'on a pris l'essentiel, on a considéré comme essentiel le fait d'avoir reçu toutes ces mitzvot. Donc, celui 613 mitzvot aussi, là. Oui, c'est ça. Cette idée du Sinaï, on la vit dans la façon de faire les mitzvot.